Cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Et bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Cultivons notre jardin. Me voici, je suis avec Jackie. Jackie, salut.
Bonjour, bonjour à tous. On est au soleil, il fait beau et on va vous raconter un petit peu ce qu'on va faire.
Puis on rigole aussi, ça c'est bien.
Des fois.
Des fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, on est venu avec Jackie au jardin de Karine, à Saint-Sauveur-de-Peyre, par ce joli mois de mai. Il fait beau, effectivement, comme a dit Jackie, donc on est dans un endroit très, très agréable, en compagnie de Daniel aussi, qui va donner un coup de main à Jackie, puisque l'objectif de cet après-midi, c'est quoi ? Raconte-nous un peu, Jackie.
Eh bien, l'objectif de cet après-midi, c'est de greffer. On va greffer des arbres fruitiers, on va greffer des poiriers, des pommiers, donc sur des porte-greffes qui ont déjà été plantés dans le terrain. Et puis, on va essayer de mettre des variétés locales qu'on a ramenées. Il y a aussi, alors c'est intéressant à dire, peut-être on a des sorbiers des oiseaux et sur quelques-uns, on va essayer de greffer du poirier, ce qui peut se faire parce que c'est la même famille de végétaux.
On est dans l'expérimentation aujourd'hui, ça rigole pas. On va aller dire bonjour à Karine. Karine, donc c'est Karine de Lozerbe et nous sommes chez toi dans ton fief, dans ton jardin. Bonjour Karine.
Bonjour, on est dans mon terrain de jeu.
Alors effectivement, il y a plein de jouets dans le coin. Tu nous expliques rapidement qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on va se balader pendant que les garçons y greffent.
On va se promener et je vais présenter succinctement, hein, parce que sinon ça prendrait 3 jours, les plantes que je cultive, les plantes sauvages, parce que je laisse une grande part de sauvages dans mon jardin, les plantes que je mets en sachet pour les vendre à la grange notamment. Je cultive des espèces, alors pour certes de la menthe, du thym et du romarin, mais des espèces aussi qui sont un peu moins communes, comme sinon c'est pas la peine de faire comme tout le monde, c'est pas intéressant, quoi. Et voilà, en gros.
Bah, c'est pas mal déjà.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en fais de toutes tes cultures après ?
Eh bien voilà, je les présente lors de sorties botaniques.
Très bien.
Voilà, que j'en fais tout l'été, en partenariat avec les offices de tourisme, autant de Nazvinal que de Aumont, de Saint-Chély, du Malzieux, de tout le canton en fait. Hein. Je fais des sorties botas certes dans mon terrain, mais pas seulement. Je change aussi de lieu, je vais dans des milieux humanisés, dans des lieux humides, dans des zones sèches, dans des zones arides, de bord de route, des décombres. J'ai même pour le défi essayé de faire des lieux pollués. Ça, c'est un défi. Mais il y a matière à discussion. Je fais même des sorties botaniques dans Mende. Donc, il y a matière à discussion partout.
Partout, ça pousse finalement. Karine, elle est un petit peu sorcière en fait. Je t'en prie, c'est un compliment. Alors, juste avant de commencer la visite botanique avec Karine, je vais venir faire un petit tour vers Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je suis en train de trier les greffes pour Jackie, là, pour qu'il puisse les greffer sur les poiriers. Là. Donc on regarde toutes les variétés qu'il y a et on va sélectionner une variété qui lui plaît parce qu'il est très difficile ce monsieur.
Il n'est pas facile Jackie, effectivement. Heureusement qu'il a des petites mains. Hein. Merci Daniel. Donc voilà, maintenant je suis avec Karine et nous allons commencer cette petite balade botanique. Donc Karine, en fait, elle est productrice, paysanne, cueilleuse, tout ça. Et elle peut nous parler autant des plantes sauvages que des plantes qu'elle cultive, c'est ça qui est chouette. Donc je lui donne le micro tout de suite et je la suis. À tout de suite.
On va commencer par des plantes sauvages. Là, on n'a même pas fait 1 mètre. Nous avons ici de la porcelle. C'est une plante qui est comestible. Et dans les plantes sauvages, c'est intéressant de connaître les plantes comestibles parce qu'on a une infinité de goûts différents. Celle-là, elle a d'intéressant qu'elle est charnue. Et c'est surtout qu'on peut la consommer même une fois qu'elle a fleuri et c'est pas le cas de toutes les plantes sauvages.
Alors en fait, cette plante, pour vous expliquer, elle ressemble un tout petit peu à du pissenlit, à des feuilles de pissenlit.
Mais elle a une peau de porc comme de la porcelle.
Et elle a une peau de cochon. Et je peux la goûter, Karine, comme ça ?
Je peux la goûter.
Direct, et je vous dis.
Les salades sauvages, il faut les mâcher longtemps.
Elle est bien. Allez, à côté, il y a du plantain.
À côté, il y a du plantain. Le plantain est une plante comestible également, jeune, elle est excellente. Un peu plus vieille, on peut la mettre dans nos potages. C'est une plante que j'aime travailler parce que c'est une plante qui est un antihistaminique de premier ordre. On fait encore 5 cm, on voit de la fume-terre, la fumée de terre. Ça, c'est une vieille croyance qui disait que elle ne sortait pas d'une graine, mais elle sortait d'un songe, de la fumée de terre, de la terre directement. C'est une plante qu'on appelle aussi l'herbe à la veuve, parce que son suc fait pleurer les yeux les plus secs. C'est une plante qui a eu la réputation de faire des gens très vieux, d'assurer une longévité certaine. C'est une plante, par contre, que moi je recommande de faire attention parce que elle, même si elle a été connue par Hippocrate et Galien comme une héménagogue, non, pas du tout, comme une plante qui active la vésicule biliaire. C'est quand même une plante qui peut faire des dégâts sur le foie. Donc, c'est sans avis médical, il faut s'abstenir. Et c'est que des petites cures qu'il faut faire, pas plus d'une semaine. On va avancer un petit peu et on se trouve devant un genêt. Le genêt, plante sauvage, certes, il y a plusieurs genêts, certes. C'est une plante qui a la particularité, c'est pas la seule à faire ça, mais qui a la particularité d'avoir des toutes petites feuilles. Donc pour faire la photosynthèse, elle est un petit peu limitée. Donc elle fait la photosynthèse également par ses tiges qui sont vertes. D'une manière générale, il faut retenir que les genêts sont des plantes toxiques. On punissait les femmes infidèles au Moyen-Âge. Quand elles mâchouillaient le genêt, qu'elles avaient bien mal au ventre, elles n'allaient pas courir les garçons. Ces branches s'appellent des spartes. Moyen mémotechnique pour savoir quel produit de la spartéine. Les laboratoires pharmaceutiques en tirent un tonique cardiaque. C'est une plante qui a été également beaucoup utilisée pour faire des voilures de bateaux. Sa fibre est très costaud et très solide. On la tisse. Après cette mode-là, à l'Odève, ils ont fait les bas à l'usine de filature. Et bien juste avant, c'était destiné au genêt pour faire les voilures de bateaux. Voilà. On peut continuer avec ce petit lamier pourpre. Le lamier pourpre, très jeune, a un goût de champignon. Il ressemble à une ortie, c'est une lamiacée avec sa tige carrée, évidemment, et ses fleurs en forme de bouche. J'expliquerai avec le lamier blanc pourquoi. Si tu veux la goûter, un goût de champignon. Voilà, c'est pas une plante nutritive plus. Elle contient pas énormément de vitamines ni de protéines. Par contre, elle est très riche en minéraux. Elle est très intéressante. Nous avons là la doucette. La mâche étant cultivée, la doucette étant sauvage. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette doucette est de la famille de la valériane. C'est une valérianacée.
C'est pas la même famille que la mâche, du coup ?
Si, c'est la même chose, sauf que la mâche est cultivée, la doucette est sauvage.
D'accord.
Voilà. Et quand elle est fleurie et montée, elle a des toutes petites fleurs blanches légèrement bleutées que les gens ont tendance à confondre avec le myosotis. Là, tu as le mouron des oiseaux.
Ah oui.
S'il est blanc, et moi j'en suis sûre, ça a un goût entre le petit pois et les haricots verts. Bon, il en faut beaucoup, certes.
Plus le petit pois cru.
Ouais.
Alors moi j'ai goûté le lamier pourpre qui a effectivement un goût de champignon. La plante ressemble tout à fait à l'ortie comme disait Karine. Et voilà, elle va se terminer en pointe en haut et les feuilles du haut sont plutôt pourpres. Elle a des toutes petites fleurs mauves. C'est pyramidal, voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai goûté ? Je sais plus mais c'était pas mal. Je goûte tout. Allez Karine,
le mouron
des oiseaux j'ai goûté aussi, c'était bien.
Là tu as des rosettes de... des rosettes de Molène Bouillon Blanc. C'est Molène Bouillon Blanc, s'appelle aussi Cierge de Notre-Dame. J'en ai pas de tige là. Cierge de Notre-Dame parce que nous pouvons faire des brandons avec ces espèces de lampions que l'on met aux quatre coins du jardin. Les fleurs sont adoucissantes pour les voies respiratoires, mais bien filtrées parce que ces petits poils peuvent être urticants. Ces feuilles, mis à part de servir de papier toilette éventuellement, peuvent servir de semelle en enlevant la nervure centrale pour que ce soit confortable et ça tient chaud. Quand on se retourne derrière nous, nous avons encore une plante sauvage comestible. Bon, l'ortie, j'en parle pas parce qu'on a autre chose à faire, même si c'est très très riche. Là, vous avez la lampsame, encore une salade consommable toute l'année. On la reconnaît parce qu'elle a des petites oreilles sur les côtés. C'est une plante de la famille des crucifères, verte claire. Alors, à cette époque de l'année, on les voit pas développer et c'est dommage. À côté, une plante cultivée, la balsamite ou la menthe coque. Celle-là a vraiment l'odeur de Hollywood chewing gum.
On peut le dire.
C'est une plante que je mets dans mes boissons digestives. Nous avons beaucoup de gaillets gratterons, ce qui témoigne là d'un sol où il y a eu énormément de végétaux qui ne se sont pas compostés. Ça fait partie des plantes bio-indicatrices. Mais je les laisse parce qu'elles vont m'aider à... Je les laisse, dit-elle en les arrachant. Elles vont m'aider à détruire les végétaux qui sont dessous, quoi. On va avancer un petit peu pour se trouver devant l'allière. Allière, Allaria officinalis. C'est une plante verte, claire, tendre, qui monte avec 4 ou 5 branches réunies, avec 4 pétales en croix bien blanches, avec une odeur soufrée d'ail un peu amère qui peuvent se mettre dans les salades. C'est une plante qui n'a pas une grande valeur thérapeutique, mais en tant qu'antiseptique, elle peut rendre bien des services quand même. En descendant. Ouais. Allière, Allaria. Ça, c'est ma plante, une de mes plantes sauvages préférées, qui témoigne d'un sol humide. Si tu la connais, mais tu vois pas la fleur. Alors, comme tout le monde, la fleur, les gens voyaient les fleurs. Ça fait des espèces de petits écouvillons roses dans les prés humides. Ça s'appelle la...
Une grande hampe ?
Ouais, la renouée bistorte. Voilà. Bistorte parce que sa racine est 2 fois tordue. Elle a été énormément cultivée et utilisée. En plus, quand il y en a une, il y a plein de feuilles, donc il y a de quoi manger. C'est très doux, très agréable. Sa racine poêlée au beurre ou cuite fait comme un salsifis. D'ailleurs, le salsifis l'a remplacé totalement après, hein. Et c'est une plante avec laquelle j'avais envie de faire des pâtés végétaux, mais j'ai jamais eu le temps de le faire.
Je la goûte comme ça ?
Tu peux, aisément. Elle est légèrement acidulée. Et moi, j'aime bien son dessous blanc. Le sureau. Alors attention, il y a 3 sureaux. Sureau noir, sureau rouge, sureau yèble. Celui qui ne fait pas de bois, c'est le sureau yèble. Celui-là est toxique, il est juste ornemental éventuellement. Le sureau, moyen mémotechnique, il pue la chèvre. C'est une caprifoliacée.
Ah, j'avais jamais senti du sureau.
Autant la fleur sent bon et elle est enivrante, autant la feuille, elle pue énormément. C'est une plante qui, les fleurs, séchées, ventilées, parce que les fleurs blanches sont délicates, sont bonnes pour tous les maux de l'hiver. Tous les courbatures, les refroidissements, la fièvre, les articulations douloureuses, etc. Et en plus, c'est super agréable. On était dans les sauvages, en effet. On fait une pause musicale. Donc, on va écouter Le Petit Bonheur de Félix Leclerc.
Merci, Karine. À tout de suite.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes deuils, mes peines, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que chifflait ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des filles malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux.
Nous voici donc de retour au jardin de Karine Lozerbe à Saint-Sauveur-de-Peyre. On vient de passer en revue un petit peu toutes les plantes sauvages qu'on pouvait trouver dans son jardin. Et maintenant, elle va nous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'elle cultive peut-être. Hein, qu'est-ce que t'en dis, Karine ?
L'un n'empêche pas l'autre. Tout est mélangé. Je peux te parler de la mélisse qui est très commune, que les gens appellent la citronnelle à tort. La citronnelle étant une graminée exotique, la mélisse est une lamier, donc c'est même pas de la même famille. La confusion vient du fait que la plante contient du citral, comme le citron, comme bon nombre d'arbres résineux. Donc la mélisse, je la cultive surtout pour la mettre dans des infusions qui sont digestives ou équilibrantes du système nerveux, pour des potions dodo par exemple, elle est dans ma boisson du soir. C'est une plante qui est connue depuis très 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 longtemps, on en trouve dans les textes du Moyen-Âge et même de l'Antiquité, et si je ne me trompe pas, on en trouvait déjà avant. Avant l'Antiquité. C'est une plante qui a été connue au Moyen-Âge notamment parce qu'on n'avait pas tous un frigo à la maison et que cette plante-là avait la réputation d'être digestive pour accepter les viandes un petit peu faisandées ou ce genre de choses. C'est une plante qui, de nos jours, à l'heure actuelle, est reconnue surtout pour son système équilibrant du système nerveux. Elle va vous booster si vous êtes fatigué et elle va vous poser si vous êtes agacé. C'est vraiment une plante de premier ordre, il faudrait que tout le monde en ait dans son jardin.
Surtout en ce moment. Hein.
Surtout en ce moment. Là-bas, caché derrière, on a des arômes qui sont sauvages. Les arômes sont là juste pour la beauté de la chose et pour la particularité qu'elles ont à produire de la chaleur de leurs spathes. Leurs spathes, c'est leur inflorescence, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est pas ça du tout, qui chauffe et qui attire les fourmis. Elles tombent dans une espèce de réceptacle, ça les enduit d'une substance qui les fait couler et qui, voilà, et après la substance s'évacue, les fourmis s'en vont chargées de pollen. Ah, on a ici la période idéale pour ramasser l'épilobe à épi, à mes pieds, l'épilobe à épi que je consomme comme des asperges sauvages. Moi qui suis provençale, j'étais très coutumière des asperges sauvages. Eh ben, depuis que j'ai goûté ça, eh ben, je trouve ça excellent, même meilleur. Par contre, il ne faut pas en consommer beaucoup parce que ça contient de la saponine et ça peut faire du mal si on a des ulcérations internes. Une fois de temps en temps, ça passe quand même, hein, mais voilà. Et comme quand des fois on a des ulcérations cuites. Voilà, on le sait pas toujours quand on a des ulcérations. Qu'est-ce que nous avons de joli? Tiens, là, tu as du saxifrage. C'est très joli. Saxifrage, ça veut dire mange-pierre. Ça pousse sur les sols très secs et très, très sableux, silicieux, et elle est assez tolérante.
Ça fait une petite fleur blanche haute sur tige qui est très très commune en Lozère, celle-là, effectivement.
Hein. Oui, mais il y a plein de plantes communes en Lozère qu'on ne voit même pas. Là, elles sont toutes jeunes. Ouais. C'est ce qu'on appelle le jambon du jardinier. Sa racine est charnue, épaisse. C'est un long pivot genre carotte et qui cuit, fait comme un bon... j'allais dire un navet, mais j'avais envie de dire plus comme un bon morceau de gigot. Et elle a vraiment un goût de jambon, en vérité. Elle monte très haut, c'est l'onagre bisannuel. Et elle fait des fleurs jaunes, pétantes, et qui sont comestibles aussi. Les fleurs épanouies et les fleurs en bouton. Alors, pour les plantes un petit peu particulières que je cultive, c'est une nouveauté. C'est bon, ça fait 2 ans que je l'ai, donc je ne saurais pas en parler comme il faut. C'est de la gastache anisée. Je pense pas que ce soit une plante très autochtone. C'est une plante à visée digestive. J'ai beaucoup de mal à la mettre en place. Il faut que je me familiarise avec elle d'abord. Voilà, en plus elle est très jolie, ses feuilles sont crénelées, elles sont légèrement violacées, surtout quand elles sont jeunes, et ça fait des épis bleus. Voilà, c'est une plante que j'affectionne particulièrement, c'est un cadeau d'un copain en plus. Donc voilà, quand on fait le tour, nous avons de l'hysope. L'hysope, l'herbe sacrée des Hébreux. Psaume 50, ils disent « Aspergez-moi avec un rameau d'hysope et je serai pur ». En aucun cas, il ne s'agit de cette hysope dont il est fait mention dans la Bible parce que le biotope ne correspond pas. Donc, c'est pas celle-là, mais bon, ça fait plaisir de dire que c'est celle-là. Dans mes rangées, quand je les taille, j'en laisse toujours une pour les abeilles, pour la pollinisation, pour... voilà. C'est une plante qui était très connue, il fut un temps, pour les yeux pochés des bagarreurs. C'est une plante qui fait partie des désinfectants des voies respiratoires. Elle est suave, en liqueur c'est la meilleure, en infus c'est bien, mais en liqueur elle est vraiment très bonne. C'est une plante facile à cultiver, elle est d'abord méditerranéenne, c'est de là qu'elle est originaire. Pareil, elle ressemble, quand on ne s'y connaît pas, à de la lavande. Elle fait les mêmes épis bleus et elle est de la même famille que la lavande. J'ai de la monarde. Alors ça, c'est pareil. C'est un petit clin d'œil à une dame que j'aimais beaucoup. La monarde, c'est ma reine. Parce que quand elle fleurit, en haut de son capitule, elle fait des petits fleurons, des tubulaires qui entourent le cœur. Et en plus de ça, il lui arrive de mettre un deuxième capitule dans le premier capitule. Cette monarde, qui est originaire du bord du lac Ontario, qui a été découvert par Nicolas Monardès d'ailleurs, est une plante qui servait au peuple amérindien pour tout, pour absolument tout, selon qu'on utilise la fleur, la feuille, la racine, ou la fleur et la racine, ou elle servait absolument pour tout. C'est un peu le thym comme en Provence, quoi. on peut avoir aussi de l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille, tout le monde la connaît. Alors, je dis millefeuille, mais il y a plein d'achillées différentes. On va rester simple, on va dire millefeuille. Millefeuille, parce que sa feuille est mille fois découpée. Achillée, pour le centaure Chiron, qui aurait appris à Achille comment se servir des vertus hémostatiques de la plante. L'achillée millefeuille fleurit blanc, rose et des fois jaune, notamment en Provence d'ailleurs. C'est une plante qui est alimentaire, ses jeunes feuilles sont anisées et plutôt agréables, à part petites touches dans la salade, sinon ça devient un peu trop fort quand même. Hein. Et sa partie aérienne est un excellent antispasmodique pour tous les maux de ventre qui ont pour origine les spasmes, les coliques, les règles douloureuses. Là, dans un coin, on a aussi de l'achillée sternutatoire, qui, à l'époque où on n'avait pas de doliprane pour une bonne sinusite, la plante séchée et prisée provoquait un éternuement salutaire et libérateur. On a devant nous le lierre terrestre, qui n'a de commun avec le lierre grimpant que le fait qu'elle se fixe le long de sa tige par terre. Elle ne grimpe pas. C'est une plante très très connue qui fait des boissons, des sirops pectoraux. Je crois que c'est même encore vendu aujourd'hui en pharmacie.
Et elle fait une toute petite fleur mauve qui a exactement la forme d'une fleur d'orchidée, tu as vu ?
Oui, ouais, ouais. Ouais, elle est mignonne avec sa petite bouche. On a de la consoude. De la consoude de Symphytum. C'est une plante, vous voyez la biafine qu'on se sert pour les vergetures des femmes. Elle contient, pour les coups de soleil, elle contient de la lanoline. La lanoline est le principe actif de la racine de consoude. C'est le meilleur régénérant tissulaire qu'il existe. On a de la scabieuse. Scabieuse. Alors c'est pêle-mêle, hein, mais et en vérité, je pourrais m'étendre beaucoup plus sur les plantes, mais c'est juste une entrée en matière, une envie de venir me voir. C'est pour vous donner envie de développer tout ça avec moi. Scabieuse ou Knossi d'ailleurs, ça vient de scabies. Scabies, ça veut dire gale. Alors, à l'époque, on soignait les gales animales et humaines avec. Et il faut savoir que tout ce qui était problème de peau était assimilé à des gales. Voilà. Il y a une jolie légende associée à cette plante-là que je raconterai volontiers quand on aura plus de temps. Calta ou populage des marais. Renonculacé. Ranon, c'est grenouille. Ça pousse dans les lieux humides. Et sur le terrain, j'ai la chance d'avoir plusieurs types de sols, du très sec, du très humide, du très sableux, du très tourbeux. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir une grande variété de familles végétales. Le calta, ou populage des marais, donc c'est une plante toxique au demeurant, il est raconté dans certains ouvrages que ça pouvait servir comme succédané de tabac. Je ne le conseille à personne, encore une fois. Toutes les renoncules possèdent un alcaloïde assez toxique. On a de l'ail des cerfs et de l'ail des ours. La différence botanique étant plutôt facile à faire, l'ail des cerfs monte un petit peu plus haut et il a une gaine rouge à son pied. Elles sont toutes les deux comestibles. Voilà, c'était juste histoire que dans mon jardin, je puisse faire le distinguo entre ces plantes-là. J'ai également de l'arnica, de l'aunay et de la doronique qui se ressemblent beaucoup. Les gens croient ramasser de l'arnica et en fait, ils ramassent autre chose. Ce qui n'est pas plus mal puisque l'arnica, il est en voie de disparition. Nous avons ici une crucifère, ça veut dire porteur de croix crucifère. C'est une plante de la même famille que le chou. Oui, tu peux la manger. C'est de la... des prés, de la...
Ah, c'est amer ça. C'est très amer.
De la... je ne me rappelle plus de son nom, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son nom. Cardamine des prés. Tu sens comme c'est soufré ?
Ouais, puis c'est vraiment amer. C'est pas bon, Karine.
Ouais, mais... si, c'est bon. Alors, les plantes sauvages, c'est comme le rap. Quand tu écoutes du rap pour la première fois, ça te fait mal à l'oreille.
C'est pas bon.
Et Et en fait, quand tu l'écoutes plusieurs fois, tu t'adaptes et tu t'habitues. Les plantes sauvages, c'est pareil. Il faut en consommer régulièrement.
Je ne l'avais jamais mangé.
D'abord, tu consommes des plantes douces et tu finis par pouvoir consommer un peu tout. Là, on a le lamier blanc. Le lamier blanc qui a donné tout, son nom à toutes les plantes de la, du genre lamier, genre espèce. Là, alors, c'est l'histoire de la nymphe Lamia dévoreuse d'enfants.
Tu fais, elle joue marionnette en fait avec les fleurs, la Karine.
Je fais fermer la bouche à Lamia. En fait, on l'appelle aussi ortie blanche, mais c'est une erreur de botaniste du XVIIe siècle qui est restée dans les livres d'histoire. C'est comme aujourd'hui les copier-coller sur Internet. Des fois, on voit des super trucs affolants et faux. Voilà.
Ça, on le mange ?
Ça peut se manger aussi. Ça les gens le confondent. C'est plus champignon que l'autre, hein, quand même. Les gens le confondent avec l'ortie, mais la confusion n'est pas grave parce que c'est aussi une plante comestible qui se fait plus cuire.
Ça, elle le dit maintenant que je suis en train de la goûter, la plante. Non, c'est pas mal le lamier. Effectivement, ça a vraiment un goût de champignon, mais c'est sympa, ouais.
Trois mots sur le myosotis. Je m'en sers peu. Je m'en sers surtout comme plante tinctoriale, en fait, pour colorer les fibres, pour colorer les œufs à Pâques en bleu. Voilà, je la laisse parce qu'elle est jolie. Et
oui,
que voilà. J'ai ici en culture du lys. Du moins, là, j'en avais beaucoup, mais comme ils ont fait l'enrochement, ils m'ont tout abîmé. Donc, j'en ai plus par là-bas. Il y a tout qu'à couler, là. Il a fallu, mon Dieu, des coups de pelle et des coups de pelle. Hein. Le lys, c'est une plante qui est resté, son usage est resté dans les traditions, comme cicatrisant, macéré dans de l'alcool. Moi, je la préfère macérer dans de l'huile pour éclaircir la peau, pour faire un joli teint, notamment sur les peaux matures. Voilà, c'est plutôt agréable dans une huile de cameline, notamment. Voilà.
Et ça, c'est quoi, Karine ?
C'est le lys. Ça, c'est la partie basale et là, elle est en train de monter.
Mais c'est quoi comme lys ?
C'est du candidum, c'est le lys blanc.
Ah bon ?
C'est le lys blanc. Tout ça va devenir comme ça et ça va monter à jusqu'à 81 mètres de haut.
Ah oui, alors tout petit, il n'a pas les mêmes feuilles que le lys mauve qu'on voit un petit peu partout dans les enrochements. Il a des feuilles plus rondes et là, il a déjà une forme de fleur. Ses feuilles donnent une forme de fleur à la plante en train de pousser.
Tout à fait, tout à fait. On a un petit peu plus loin le sceau de Salomon, qui pousse normalement en plein milieu d'une forêt. Alors, il existe celui-là et le sceau de Salomon verticillé. Il y en a deux. Si, mais comme ça, tu le reconnais pas. Il fait des branches beaucoup plus longues et ses fleurs ou ses fruits noirs pendent dessous. Ils sont cachés. Et c'est une plante qui a été utilisée comme talisman dans l'Antiquité. La racine était séchée, aplatie, rouleau à pâtisserie. Et sur la tranche centrale de ce rhizome, ça fait comme une forme d'aigle avec les ailes déployées. Et c'était un porte-bonheur. Voilà. Et sceau de Salomon, parce que son rhizome grossit et à chaque année se fait un renflement qu'on pourrait faire cacheter une enveloppe avec. Ça fait comme un sceau. Voilà.
On va voir les garçons un peu. Le calamante, le thé d'aubrac, les amélanchiers en fleurs. Et on remonte voir les garçons. Ça y est, je suis remontée de tout en bas du jardin de Karine et me voici à côté de Daniel qui est en train de soigner les greffons. Qu'est-ce que tu fais, Daniel ?
Eh bien là, je suis en train de boucher le haut du, pour pas que l'air passe, le haut du greffon. Voilà. Et Jackie a greffé, on va l'entourer maintenant avec un machin spécial, du téflon, on va le faire puisqu'on n'a pas autre chose. Mais on va, au point de greffe, on va couper l'air aussi pour que la sève monte entre les deux écorces. Entre les écorces, il y a un petit filet, ça s'appelle le cambium, et c'est par là que monte toute la sève, et qui donne la vigueur au greffon, et qui le fait naître, quoi. Qui fait naître le greffon, qui fait naître l'arbre.
Et c'est quoi que vous avez greffé, là ?
Un premier avec une rainette clochard. Le greffe, c'est une rainette clochard, voilà, qui est très bonne et qui est du pays, quoi, voilà.
Ah, une rainette autochtone, la rainette clochard, donc qui vient d'être greffée sur un pommier quelconque, c'est bien ça, hein?
Non, oui, quelconque, je sais pas.
Oui, quelconque, Jackie.
Un pommier issu de semis, hein, donc c'est un franc qu'on appelle, c'est-à-dire ouais. Qu'à un moment, il y a eu un pépin de pommes de semer, ça a donné un arbre qu'on appelle donc un franc qui pourra servir de ouais. Porte-greffe. Et alors là, comme on avait deux troncs côte à côte, on a même greffé de la rainette clochard et de la grasse de Chirac.
Ah, ça, je reconnais ta patte là, Jackie.
Non, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs variétés sur un même arbre, hein. Ça c'est tout à fait possible. On l'a déjà fait plusieurs fois avec un jeune arbre qui part avec 2, 3, 4 branches charpentières. On peut mettre des variétés différentes. C'est d'autant plus intéressant quand sur 3 ou 4 variétés on met de la reine des rainettes qui est le meilleur pollinisateur.
Tu veux dire qu'on pourrait, par exemple, sur un porte-greffe, on pourrait greffer du pommier, du poirier et quoi d'autre, du cerisier ?
Non, là j'étais que dans des variétés de pommiers. Sur du pommier, on met du pommier, sur du poirier, on met du poirier et sur du merisier, on va mettre du cerisier. Il faut que l'arbre soit de la même famille. Alors par contre, on pourrait par exemple mettre du poirier sur de l'aubépine, parce que ça fonctionne, vu que c'est la même famille botanique. Voilà.
Alors, nous revoici. Alors, on tourne le dos à Jackie et on repart un peu dans le jardin. Vas-y, Karine.
La petite pervenche ou vinca minor qui se dépêche de fleurir avant que tous les arbres mettent leurs feuilles, parce que c'est les papillons qui viennent les polliniser. La vincamine étant une substance qui active la microcirculation cérébrale. Mais c'est aussi une plante potentiellement toxique. Ça ne veut pas dire mortelle, ça veut dire juste quelques désagréments. Mais je déconseille de l'utiliser, mais la pharmacie l'emploie pour en tirer la vincamine.
Merci. Alors on se promène, là il y a du sédum, les fraises sont pas encore là, mais c'est bon, j'ai bien repéré où elles poussaient. Je n'aurais plus qu'à revenir de nuit. Youpi.
Ah, plante sauvage, mais néanmoins magnifiquement développée. On l'appelle pied de griffon, c'est une hélébore qui a des fleurs fétides. Fétide, ça veut dire que ça pue. D'ailleurs, on l'appelle pied de griffon parce qu'elle sent les pieds de griffon. Tu sais, les griffons dans la mythologie, t'as jamais ressenti les pieds du...
Mais j'ai jamais senti les pieds d'un griffon.
C'est une plante, certes, qui est belle, qui vit 4 ans et qui est dans mon jardin parce qu'elle éloigne les rat-aux-pieds. Bon, là, il n'y en a pas assez pour que ce soit le cas, mais regarde une larve de coccinelle.
On la trouve... On la trouve plutôt dans les bois ou aux abords des bois, cette hélébore normalement. Hein.
Cette plante se trouve en effet dans des lieux plutôt ombragés, couverts, avec un sol meuble et épais. Là, elle n'est pas à son aise non plus. Je pourrais vous parler de la... Adonis vernalis, rien que le nom, tu vois, Adonis vernalis. C'est une plante protégée. C'est une plante que l'on trouve sur les lieux secs et calcaires, notamment sur les cosses au-dessus de Mende, qui fleurit pas la grande majorité de l'année, juste au sortir de l'hiver d'ailleurs, et qui, malgré sa protection, se prend des coups d'épareuse à chaque fois qu'il nettoie les bords des routes. Comme la carline à col qui a été longtemps protégée, ça empêche personne de les broyer avec leur machine. Je vous parlerai volontiers du sassafrica. Ça veut dire qui frotte les pierres. C'est le salsifis des prés qu'on reconnaît parce qu'elle a des feuilles triangulaires et qui a une nervure centrale blanche. C'est une plante qui a un gros pivot, un salsifis, que les gens ne reconnaissent pas malheureusement. J'en ai désherbé un ce matin et je ne sais pas où il est. Quand elle est fleurie, c'est trop tard. Elle est là. Quand elle est fleurie, c'est trop tard. Mais c'est vraiment une plante très nourrissante. Ouais. et qui fait un gros pivot. Voilà, quand on veut manger en sauvage, on peut. Je vous garantis qu'une grande partie de l'année, on peut manger en sauvage. Voilà, je recommence à parler de l'Achille millefeuille ou sourcil de Vénus ou saigne-nez. Parce que c'est une plante hémostatique de premier ordre. Mon fils saigne souvent du nez. Tu mâchouilles, hop, tu mets dedans, tu comptes jusqu'à 3, tu l'enlèves, ça saigne plus. Hein.
Ah, génial.
C'est assez magique comme effet.
Et puis ça, on en a... L'Achille millefeuille, on en a partout en Lozère, tu es d'accord ?
On en a partout. Elle témoigne d'un sol riche en matière organique, souvent au bord des routes ou sur les chemins où les chiens y crottent. Mais là, elle est en abondance parce que j'ai ramené une espèce de compost que je ne sais pas trop ce que c'est.
Oh, cette fleur, elle est belle.
Eh bien, c'est la monnaie du pape.
Oh, mais elle est petite.
Encore
là.
4 pétales en croix. Et c'est une plante qui est comestible, je ne l'ai pas encore goûté celle-là.
Ah, c'est très bon même. Ah, elle a beaucoup de goût celle-là. Du millepertuis.
Les gens la connaissent pas quand elle n'est pas fleurie, mais quand elle est basse, moi j'arrive à la reconnaître. Hypericum perforatum. C'est une plante qui, pareil, son utilisation a traversé les temps, pour les brûlures notamment, mais aussi pour toutes les irritations ou les affections de la peau d'origine nerveuse, eczéma et psoriasis. On la reconnaît parce que sa feuille est perforée, perforatum. C'est pas des trous, en fait, c'est des bulles d'huile essentielle qui donnent à sa plante ses pouvoirs thérapeutiques, en fait. C'est aussi une plante tinctoriale. Et attention, c'est pas vraiment un antidépresseur en usage interne. C'est que sur avis médical et à ne jamais associer avec des antidépresseurs de synthèse. Parce que ça peut faire des dégâts considérables. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau ? Le citis que les gens confondent de temps en temps avec l'acacia.
Ah oui.
Est une plante toxique. J'ai vu des gens ramasser des grappes de fleurs pour faire des beignets. Heureusement que je suis intervenue parce que sinon ils les auraient mangés. Qu'est-ce que nous avons de nouveau ? Ah, nous avons de l'aurone mâle de la même famille que l'absinthe et que l'armoise. Je vais en chercher un petit bout pour renifler cette odeur de Coca-Cola.
Ah, ça fait rêver, hein. Rappelle-nous le nom.
C'est de l'aurone mâle.
Ah oui, complètement, oui. Ça a vraiment le...
Et j'ai pas encore réussi à préparer le Coca-Cola avec.
On peut en faire une boisson qui a vraiment ce goût-là, parce qu'effectivement, l'odeur, ça sent vraiment le Coca-Cola, même si c'est pas une odeur que je connais bien. Bah là, je le reconnais, ouais.
Paraît-il, j'en ai goûté une fois une dame qui m'en avait préparé et du coup elle m'avait donné sa bouture, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Là nous avons du conopode dénudé.
Ah oui.
Dénudé parce qu'il a une tige toute nue, une feuille et demie là qui se promène. Le conopode et pas le kénopode, même pas de la même famille, est une plante qui fait la génote, la noisette de terre. Avec un goût assez bluffant de noisette avant que l'ampe florale ne soit développée. Je te parlerai des galles de l'églantier,
ah oui,
qu'on appelle des baies d'égard, issues d'une piqûre de guêpe, me semble-t-il, qui soignait les galles. Je peux te parler de la joubarbe des toits, Jovis barbata, barbe de Jupiter, qui était plantée sur les toitures, pour éloigner la foudre. C'est une plante mucilagineuse. Les gens disent plante grasse. Les botanistes préfèrent utiliser le nom de plante succulente. Succulente parce que l'intérieur de cette plante est très épais et très hydratant et très réparateur. Un peu comme pour les brûlures. Ça fait des pansements minutes. Je peux te parler de l'ancolie, l'originelle et de montagne étant forcément violette foncée. Les ancolies toxiques qui ont fait écrire énormément de poètes, Ronsard, Chateaubriand et d'autres poètes, sont des plantes que tu peux accrocher à ton hameçon parce qu'elles sont hydrofuges et ça fait des cuillères pour aller à la pêche. Comme le pigamon. D'ailleurs, le pigamon, on dit pigamon à feuilles d'ancolie. Alors, regarde une autre et les bords. Je te parle pas de la lavande, c'est trop succinct, je te parlerai volontiers de la céreste. Non, je ne te parle pas de la céreste. Je te parlerai volontiers de la tanaisie.
Ah oui.
La tanaisie avec une forte odeur de thuyone, exactement la même molécule qui se trouve dans l'absinthe, qui rend fou, mais son essence me prémunit. Le jardin, j'en ai toute une rangée là qui fait 15 mètres, contre les insectes, contre tous les champignons et autres, voilà. Elle rentre dans la liqueur bénédictine, dans la composition de la liqueur bénédictine. Je peux te parler du calamante ou thé de l'Aubrac.
Ah oui.
Thé de l'Aubrac, on va pas y aller, qui n'est rien d'autre que de la menthe. Calé en latin, c'est belle.
Ah ouais,
ouais, c'est de la belle menthe de forêt. Alors n'achetez pas 1 euro le gramme votre paquet de calamante, ça ne vaut pas ça. Ne faites pas vos touristes et ne vous faites pas avoir. Petit message subliminal. Alors là, dans les plantes cultivées, il y a de la sauge, mais je pensais surtout à l'hémérocale. Le lys perpétuel, ces ombelles peuvent servir de réceptacle pour une boule de glace à la vanille, en ayant retiré les organes sexuels d'abord.
Oui,
pistil et étamine, c'est comestible, mais c'est pas génialissime, quoi. Ouais, c'est pas... Là, on a de la potentille fausse fraise.
Alors,
voilà, il ne faut pas attendre qu'elle fasse ses fruits. D'ailleurs, celle-là fait des fruits. C'est pas la fausse fraise parce que celle-là, elle fait des fruits. C'est une potentille américaine qui se répand et qui, comme toutes les potentilles, est toxique. Mais son feuillage est plutôt décoratif. Donc, je l'éradique pas beaucoup. D'ailleurs, le cheval, il a grignoté ici, mais... Une dernière plante, la vipérine. La vipérine, ces jeunes feuilles contusées, quand elles sont encore en rosette, peuvent être comestibles à côté du salsifis des prés. Cette vipérine s'appelle comme ça à cause ou grâce à son pistil qui est séparé en deux. La vipérine est de la famille de la bourrache. La vipérine... disait-on, pouvait atténuer un venin de serpent. Et là, nous avons du sénesson, la vieille tête d'un vieil échevelé tout blanc. Ça s'appelle sénesson à cause de sénescence, à cause de ça, ou grâce à ça. Voilà.
On va remonter voir Daniel et Jackie qui ont dû terminer les greffes ou qui sont en train de terminer de greffer. Et ils vont nous raconter un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont fait. À tout de suite. Et voilà, je suis retournée vers Jackie qui vient de terminer son travail de greffe. Et tu vas nous raconter un peu tout ce que tu as fait là, Jackie, par contre, parce que tu as beaucoup travaillé, hein, au moins le plus d'une heure, je crois. Le voilà.
Eh bien, on a greffé, donc on a fait une bonne dizaine d'arbres, poiriers, pommiers, et puis donc on a testé une greffe de poirier William, bon chrétien, sur du sorbier. Et donc ça, peut-être un jour, on donnera des nouvelles sur les antennes pour confirmer que ça a bien fonctionné. Alors ce qui compte aussi, c'est de bien avoir nettoyé les porte-greffes. Hein. En fait, on supprime toutes les feuilles, toutes les petites branches, de façon à ce que la sève monte vraiment dans le greffon pour qu'il y ait la reprise assurée. On n'a rien changé sur le réseau de racines. On a réduit les branches, donc on va avoir un bon apport de sève qui devrait concrétiser nos greffe comme ça. Autre chose aussi, c'est qu'il faudra y repasser parce que là j'ai mis du téflon parce qu'on avait que ça sous la main, donc bon, c'est une bonne solution le téflon, sauf que au bout de 15, pour l'instant ça sert bien comme il faut, mais au bout de 15 jours pour bien laisser la sève circuler, hein, on estime qu'au bout de 15 jours si ça a pris c'est bon, on va pouvoir sectionner ce téflon pour éviter que que ça sert justement. Hein. Il faudra une bonne circulation de sève, voilà. Et puis peut-être à l'occasion, puisque d'après ce que j'ai compris, ici il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais une occasion, on reviendra, on pourra reparler de ces greffes. Voilà. La conclusion de l'atelier greffe.
Conclusion de l'atelier greffe par Jackie. Maintenant, je retourne un peu voir Karine parce que je voudrais bien qu'elle nous raconte comment elle a construit son poulailler. Mais là, elle est en train de papoter, alors ça va pas être facile. Viens, Karine. Alors, pour clore cette émission, Karine, moi, je trouve que tu as un très, très beau poulailler. J'aimerais que tu nous racontes comment tu l'as fabriqué.
Avec des bouteilles en plastique remplies de semoule qu'on trouve au bord de la route pour faire glisser les voitures, tu sais. J'ai rempli les bouteilles. Ce qu'ils ne disent pas sur Internet, c'est qu'il faut percer les bouteilles parce que c'est plein de bactéries et ça gonfle et ça peut exploser. Donc tu perces les bouteilles. Et entre les bouteilles, je les ai fait tenir avec de la terre, de la paille et de la chaux. On a monté ça progressivement avec de nombreuses bouteilles. On a quand même pris quelques bouteilles en verre pour faire des passages de lumière à l'intérieur. Et une charpente en bois magnifique digne d'un château. Et de la tôle dessus, et tiens-moi la route, avec une porte solaire qui s'ouvre et qui se ferme avec un moteur solaire. Et les poules, elles sont comme dans un château.
C'est le château des poules, c'est joli, ça fait longtemps que tu l'as construit ?
Ça fait un an que c'est fini, ça fait beaucoup plus longtemps que ça a décommencé. Mais c'est très long, rien que de remplir les bouteilles, c'est très très long. Par contre, on a fait un enduit dessus, parce que notamment le fond, pour gagner un peu de temps et de volonté, on a mis des bidons de pétrole, des gros bidons de pétrole qu'on a récupérés à la déchetterie. Et ce plastique-là, il tient pas bien au temps, il vieillit très très mal. Donc on a fait un enduit, on l'a complètement couvert. Tu veux qu'on aille le voir de près ?
Allez, allons le voir de près. Je vais je vais continuer ma petite balade avec Karine et puis quand même on va vous laisser puisque l'émission touche à sa fin. Karine, est-ce que tu veux lancer la chanson de fin de l'émission ?
Oui, mais je me rappelle plus laquelle c'est. Ah oui, c'est le petit cabanon de Fernand Sardou qui témoigne de légèreté, de chaleur, de Provence et de joyeuserie.
Merci Karine et merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton jardin. On a passé une après-midi formidable et là je suis devant une fausse rhubarbe. Allez, on vous dit à très bientôt pour Cultivons notre jardin. À bientôt.
Les gens du Nord, avec des airs d'envie, demandent ce que c'est un cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie, c'est tout et rien, car ça n'a pas de nom. C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades qu'on lance sans façon. Où la gaieté se mêle au chant des vagues, c'est le midi quoi, c'est le cabanon. Sous le soleil, le dimanche en famille, pitchouins et grands, siens tous y réunis. Nous y faisons la bourride en famille, la bouillabaisse, aioli, ravioli. Après dîner, chacun chante la sienne. L'oncle Jeannet qui pose au baryton nous endort tous, c'est encore une veine de faire un pénégué au cabanon. Pendant ce temps, les jeunes calignaires trouvent toujours un bain per ses bignards. Et les parrains qui sont des grands blagueurs ne voient jamais qu'ils s'en vont caligner. Sur les rochers, ils s'en paient une bosse, et le soleil leur trouble la raison. 9 mois plus tard, on voit, après la noce, un caguenisse de plus au cabanon. Quand on est vieux, alors on se rappelle les jours heureux passés au bord de l'eau. Tu étais beau et toi tu tu étais belle. Quand tu mettais ton petit caraco, mais c'est fini, l'existence fut brève. Car de tout temps, la vie avait du bon, et l'on s'éteint ainsi que dans un rêve au bord de mer. Un soir au cabanon.